Je suis en compagnie de mon invitée du jour, ça sera Catherine Hudon. Bonjour Madame Hudon.
Bonjour.
Vous êtes professeure ici à l'UDS en médecine de la famille, à la faculté de médecine des sciences de la santé. Vous vous spécialisez dans les cas de patients aux besoins complexes dans vos recherches. Déjà, premièrement, j'avais une première question pour vous. Qu'est-ce que l'on entend par patient aux besoins complexes?
Ben, c'est une très bonne question, effectivement. En fait, les patients avec des besoins complexes, c'est qu'il y a certaines personnes... parce que souvent, ils vont avoir différents problèmes de santé physique, peuvent avoir des problèmes de santé mentale, vivre des fois dans des conditions socio-économiques plus précaires. Ça fait que finalement, ils ont des besoins de santé et de services sociaux qui sont un peu plus complexes. Et le système de santé répond pas nécessairement toujours très bien là à leurs besoins. Alors, c'est ce qu'on entend par besoins complexes.
En fait, j'avais une autre petite question par rapport, du coup, vous avez parlé de système de santé. Quel impact, en fait, auraient ces recherches sur le système de santé dans son entier ici au Québec?
C'est ça, les recherches qu'on fait, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on travaille là-dessus. Ben, l'idée première, en fait, c'est justement d'essayer de mieux répondre aux besoins de cette population-là. Puis, ce que ça pourrait avoir, en fait, comme impact au niveau du système de santé, c'est de mieux répondre à leurs besoins. Et en fait, comme impact aussi pour le système de santé, en répondant mieux à leurs besoins, parce que ce qui arrive, en fait, c'est que quand il y a des gens comme ça, des fois, qui n'ont pas réponse à leurs besoins, mais ils retournent. Ça peut créer un phénomène de porte tournante. Alors, évidemment, pour les personnes, c'est pas l'idéal parce que leurs besoins sont pas répondus, leur expérience n'est pas toujours optimale. Puis pour le système de santé, ça fait qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs professionnels qui travaillent, des fois qui se sentent un peu seuls, chacun de leur côté, tout ça. Ça fait que les interventions qu'on a développées au fil des années, puis qu'on a évaluées, étudiées, tout ça. Ça permet de mieux répondre aux besoins, d'améliorer l'expérience de la personne, d'améliorer sa santé, que les professionnels de la santé se sentent plus satisfaits aussi dans l'offre de soins qu'ils peuvent donner. Puis ça améliore la performance du système de santé.
Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, vous avez élaboré un programme permettant de justement mieux prendre en compte de tels patients qui est en voie d'être déployé plus largement au Québec. Pouvez-vous nous parler un peu de ce programme, de ce qui va permettre en fait sur le long terme?
C'est ce qu'on appelle finalement l'approche visage. C'est l'approche sur laquelle, comme je le disais, là, on a travaillé dans ma programmation avec mon équipe dans les 10 dernières années. En fait, à quoi ça consiste, l'approche visage, c'est qu'on restructure un peu la façon de donner les soins pour cette population-là. Donc, il y a des gestionnaires de cas qui vont travailler du côté des hôpitaux. Et pour cette clientèle-là, il y a déjà des gestionnaires de cas actuellement dans les hôpitaux, mais c'est plus spécifiquement pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Alors, la clientèle qu'on vise est un peu différente. Et il va y avoir aussi éventuellement là dans les groupes de médecine de famille, dans les CLSC, les cliniques de première ligne, tout ça, des intervenants pivots. Tout ce beau monde-là, en fait, les gestionnaires de cas, les intervenants pivots vont devenir un peu des chefs d'orchestre pour s'assurer que les différents professionnels travaillent bien ensemble pour faire de la coordination de services, pour être des premiers répondants aussi, là, particulièrement les intervenants pivots pour les personnes qui sont inscrites du côté des GMS. Alors, c'est très, très résumé, là. Ça implique aussi que l'ensemble de l'organisation au niveau hospitalier, par exemple, parce que ce qui arrive avec cette clientèle-là assez souvent, c'est que à cause de leurs besoins complexes, ils tombent un peu entre deux chaises ils répondent pas complètement aux critères de certains programmes, alors ils réussissent pas toujours à avoir accès aux services. Alors ça implique aussi là au niveau de la gouvernance dans les établissements, les hôpitaux, tout ça, à haut niveau, de trouver des façons d'offrir le service, d'ouvrir les programmes ou d'ajuster les critères pour cette clientèle-là à l'intérieur d'un plan de service individualisé là, aux besoins.
On parle beaucoup de la recherche, mais il faut savoir que vous avez plusieurs années d'expérience en contexte clinique. Donc, comment cela façonne en quelque sorte votre travail de recherche? Comment est-ce que ces deux rôles viennent s'influencer entre eux?
Oui, ça aussi, c'est une super bonne question. En fait, je suis effectivement médecin de famille depuis 25 ans. Alors, j'ai travaillé dans différents contextes. D'ailleurs, j'ai été d'abord clinicienne là avant d'être chercheur. Alors j'ai travaillé dans des cliniques là, dans des GMF justement, là, des groupes de médecine de famille. J'ai travaillé en région. J'ai fait de l'hospitalisation, des soins palliatifs, différentes choses. Alors c'est vraiment de cette expérience-là comme clinicienne J'avais l'impression, pour la clientèle, la population là, avec des besoins complexes, j'avais l'impression de pas pleinement répondre à leurs besoins. Je me sentais souvent seule. Je me disais, voyons, il me semble que comme système, on serait capable de faire mieux pour ces gens-là. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'est née l'idée, là, puis c'est né d'un besoin, finalement. Dans ce temps-là où on se décourage un peu, puis on se dit, oh, mon Dieu, tu sais, les choses sont pas si bien faites, ou on se dit, ben, on pourrait faire mieux, puis on essaie de trouver des façons de le faire. Alors, c'est là-dessus, là, que ma programmation de recherche est née. Alors, c'est sûr que c'est vraiment parti d'un besoin que j'ai ressenti comme clinicienne. Puis, comment la clinique après nourrit, comment la recherche nourrit la clinique, ben, en m'intéressant un peu plus à cette population-là, en faisant des recherches, etc., ben, c'est sûr que ça a beaucoup nourri mon travail de clinicienne après, parce que je me sentais peut-être un peu mieux outillée, je savais un peu plus c'est quoi les données probantes, ça m'a beaucoup sensibilisée aussi. Alors, je dirais que les deux ont été très complémentaires jusqu'à présent.
Donc, ultimement, c'est vraiment votre pratique clinique qui vous a poussé à commencer vos recherches dans ce domaine spécifique et qui a inspiré, en fait, vos travaux.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Comme je le dis souvent à des étudiants ou à des jeunes chercheurs, c'est sûr que la recherche, c'est quand même un domaine, c'est un domaine qui est fantastique, mais c'est un domaine quand même, on est beaucoup, on cherche des subventions, on ne sait pas toujours dire oui, il y a des articles qui sont fusés des fois et tout ça. Fait que faut vraiment partir avec une conviction profonde, avec une grande motivation. Et puis dans mon cas, c'était la motivation, la conviction, c'était d'essayer d'améliorer quelque chose pour une clientèle vulnérable. Alors, ça m'a aidé à tenir, disons, dans les moments. Ça s'est bien passé en général, mais ça m'a quand même aidé pour la motivation, des fois, dans les moments qui étaient plus difficiles là, du côté de la recherche.
Oui, évidemment. J'avais une petite dernière question pour vous. Pourquoi, en fait, ça revient un petit peu peut-être à votre origine dans le domaine de santé, mais pourquoi avez-vous premièrement choisi de vous orienter dans le domaine de la médecine plus qu'un autre? Qu'est-ce que vous considérez comme unique dans la façon dont ce domaine vient en aide aux gens?
Ça aussi, c'est une excellente question. Puis je dirais que au moment où moi j'ai eu à faire des choix, là, ça fait quand même déjà quelques décennies. Je pense que de plus en plus on est dans le monde évolue, je dirais, de façon très positive. Je pense qu'on est de plus en plus sensibilisé sur ce que chaque professionnel de la santé mentale, des services sociaux peut apporter à la population, puis à la complémentarité des expertises aussi. Je pense que, tu sais, j'ai pas du tout la prétention de penser là que c'est juste les médecins qui jouent ce rôle-là, ou c'est bien au contraire. Je pense qu'il faut qu'on partage puis qu'on travaille ensemble. C'est vraiment très important là. Chacun tout seul de notre côté, on peut aller beaucoup moins loin que ce qu'on est capable de faire ensemble. Moi, ce qui a fait que j'ai choisi la médecine, j'avais des membres de ma famille qui étaient médecins de famille, que je voyais qui étaient très passionnés. Justement, beaucoup le désir d'aider, puis ça a donné que finalement, c'est le domaine que j'ai choisi, puis j'ai toujours été très heureuse là-dedans. Mais comme je le dis, je pense que plus on avance, puis plus on se rend compte, là, plus chaque professionnel prend son rôle. Puis pour moi, ça, c'est le travail d'équipe. Puis le rôle de chacun, c'est quelque chose qui est très, très important.
Oui, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup, Madame Hudon. C'était vraiment très intéressant. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent en apprendre un peu plus, vous pouvez directement aller sur le site de l'UDS. Il y a un article qui a été écrit là-dessus. Puis également, vous pouvez réécouter notre entrevue sur le site de cefac.ca. Merci beaucoup, Madame Hudon, d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler ce matin de ce beau sujet.
Ben, merci à vous pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde.
Ben, merci encore et bonne journée. Nous,